Amis potonaux, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro dont on refait le mastre, l'émission radio de Poteau Carré, avec un menu copieux ce soir, puisque ça fait un bon mois qu'on n'a pas fait l'émission. Et pour se partager ce menu copieux, eh bien, on a l'équipe désormais qu'on peut qualifier d'habituelle, avec Dissident. Salut Dissident.
Salut Osvaldo, salut à toutes et à tous.
Avec Pat 42 qui est là aussi. Salut Pat.
Salut Osvaldo, bonsoir à tous.
Avec Verivel qui est à la technique, mais qui va quand même nous donner son avis de temps à autre. Salut Verivel.
Salut Osvaldo et salut à tous et à toutes. Voilà.
Et évidemment avec, par hasard, qui ne vibre pas seulement pour les Verts, qui vibre aussi pour On refait le mastre. Salut par hasard.
Salut Osvaldo, salut à tous.
Ton problème est réglé ou pas?
Écoute, oui.
Bah voilà, t'as suivi mon conseil, t'as réglé le problème. Pour tout vous dire, par hasard, avec le téléphone qui vibrait sans arrêt, donc c'était pas commode. Alors, donc j'ai dit un menu assez copieux et qui va commencer par une bouchée fort désagréable. Alors on en a parlé quand même assez longuement avec l'équipe de l'émission. Là, on va pas faire l'émission dessus, évidemment. Mais ça paraissait impossible de ne pas revenir. Ça sera le début de notre émission sur le cataclysme niçois. Enfin, alors je ne sais pas exactement, à mon avis, ce n'est pas si simple que ça à analyser. C'est ce qu'on va essayer de faire rapidement. En se posant la question, y a-t-il un enseignement quelconque à tirer de cette rencontre? Dissident, je propose qu'on commence avec toi. On aura peut-être des avis différents sur la question. On n'en a pas parlé avant, mais est-ce que tu penses que c'est un... Comme ça se dit parfois dans le sport, c'est un accident, bon, voilà, ça ne sert à rien, ça arrive une fois sur mille, voilà. Ou, enfin, ça ne sert à rien d'analyser. Ou est-ce que tu penses qu'il y a quand même quelque chose derrière, des raisons un peu plus profondes et donc des enseignements à tirer?
Moi, je pense qu'il y a quand même des enseignements à tirer de ce véritable naufrage qu'on a quand même vécu, parce que perdre un match 8-0, je ne sais pas vous, mais moi, ça ne m'était jamais arrivé et ça fait tout drôle. Si tu es obligé quand même de te poser des questions sur un tel match. Alors, bien évidemment, le score, on peut toujours discuter de... de dire que le score est un peu sévère, que Nice a eu beaucoup de réussite. Moi, ça me rappelle un peu une page de Gaston Lagaffe, dans une BD où il fait un match de foot et il prend plein de buts et il estime qu'il y en a un qui est pas valable et que du coup ça fait diminuer le traumatisme. En vérité, ce soir-là, on est passé complètement à côté du match. Et je trouve qu'on ne peut pas mettre un mouchoir dessus et passer à la suite. Ça pose vraiment des questions sur la philosophie de jeu qu'on a adoptée, sur notre système, sur la facilité avec laquelle on a été balayé, sur l'entêtement peut-être de Dall'Oglio d'avoir tenté une tactique un petit peu trop offensive, un petit peu trop optimiste. Et je dirais que ça nous a mis tout de suite dans le bain de la Ligue 1, quoi, en se disant qu'on avait le niveau de bas de Ligue 1 et qu'il allait falloir galérer toute la saison pour se maintenir. Et je pense qu'aujourd'hui on est dans cet état d'esprit là. Donc moi je pense que ce match là il a soulevé des questions et j'ai l'impression qu'en fait il y a pas mal de questions qui n'ont il y a pas mal de problèmes qui n'ont pas été résolus en fait. On en reparlera, je pense, au fur et à mesure de l'émission, mais je pense notamment au milieu de terrain où on a été complètement, on s'est fait rouler dessus à Nice au milieu. Et en fait, depuis, j'ai pas vraiment l'impression qu'on se soit vraiment penché sur le problème et qu'on propose vraiment des solutions.
Oui, donc effectivement. Alors, on s'est fait rouler dessus un peu dans toutes les zones, mais c'est vrai qu'au milieu, c'était spécialement criant. Pat, tu as vu un accident industriel, là, un truc qui n'a ni queue ni tête et dont on ne peut rien faire en termes d'analyse, ou toi aussi, tu en as tiré quelques enseignements de cette rencontre, comme vient de le faire Dissident?
Alors moi, je l'ai vécu vraiment comme un accident industriel, effectivement. Tirer des enseignements, moi, le seul enseignement que j'ai pu en tirer, on va dire, de manière assez concrète, c'est qu'on a un effectif qui n'était pas du tout préparé pour disputer cette Ligue 1. Je pense qu'on ne va pas y revenir, mais c'est des choses qu'on s'était déjà dites. Mais on a clairement vu sur ce match les carences de l'équipe, notamment tactique, mais également physique. Et on continue de le voir aussi sur les autres matchs qu'on suivit, même si il y a eu quand même une certaine réaction après ce naufrage. Après, c'est difficile d'en tirer des enseignements. On était tellement en dessous de tout, tellement c'était même ridicule par moments. C'était tellement flagrant que l'équipe niçoise rentrait comme elle voulait dans notre défense sans même forcer la main, quoi. C'en était risible qu'il n'y a pas plus d'enseignements que ça à en tirer, si ce n'est d'une énorme gueule de bois et des gros maux de tête ensuite qui ont pu en suivre derrière. Mais voilà, en fait, je suis sorti moi, de ce match tellement groggy que j'ai eu du mal, hein, finalement, à me faire une idée vraiment de ce qui a pu expliquer ce naufrage. Et je pense que même maintenant, je pense que même le staff n'a pas vraiment d'explication tangible et factuelle sur ce qui a pu se passer, quoi. C'est vraiment un accident cataclysmique qui s'est passé. Espérons que ça serve de leçon pour l'avenir, et les matchs qui ont suivi quand même depuis laissent penser qu'il y a eu une prise de conscience sur les manques de cette équipe et les efforts qui restaient à faire pour progresser, même s'il reste encore beaucoup de travail.
Oui, beaucoup de travail. Bon, on en parlera des matchs qu'on suivit et on verra aussi dans quelle mesure certains enseignements ont été tirés et dans quelle mesure les problèmes restent les mêmes, comme l'a suggéré Dissident, en tous les cas, pour certains de ces soucis-là. Verivel, au sujet de Nice, alors il n'y a rien de positif, je pense, à tirer tard. Peut-être la rentrée de Nadé, vous me direz si ce que vous en avez pensé, mais il est rentré, il a été meilleur que les autres, Benold aussi. Mais est-ce que, parmi les choses qui n'ont pas été évoquées, est-ce que ce naufrage, ça ne caractérise pas également un problème de manque de caractère de ce groupe? Berivel, si tu penses quelque chose sur ce sujet.
Ben oui, moi je pense des choses sur le sujet. Alors après, je sais pas si vous avez eu le courage de regarder le match. Moi, j'ai arrêté à 4-0 et on était
Moi, j'ai
pas
regardé en
au
entier, je
final.
tiens à le dire.
Ah ouais, bah écoute,
Je
faut
tiens à dire que
tirer
j'ai
le
regardé
chapeau
jusqu'au
parce
bout
que.
et je vais dire après pourquoi. Je me suis concentré sur un truc
D'accord.
particulier.
Ok,
Vas-y, vas-y.
bon. Donc moi j'ai arrêté à 4-0 parce que honnêtement on n'était pas loin dans le match et je sentais qu'on allait en prendre deux fois plus, voire trois fois plus. On s'est arrêté à deux, donc ça allait. Après, enfin moi ce que je retiens en fait de ce match, c'est que c'est les déclarations d'après-match, c'est-à-dire qui disait ben c'est la faute de tout le monde. En fait, il y a eu un naufrage, comme on disait, un naufrage collectif, donc pas que les joueurs. Il y avait aussi le staff s'est mis dedans, les dirigeants également, et que finalement, en fait, derrière ce naufrage, parce qu'on aurait pu penser qu'on allait s'écrouler. Hein. Moi, je me disais, bon, je sais pas comment on va se remettre de ce truc-là. Et finalement, les deux matchs d'après, on prend 4 points. Et donc, on peut parler de manque de caractère, mais sur ce match-là, mais la réaction en fait finalement derrière montre que c'est pas, enfin, qu'il n'y a pas tant de déficit de caractère que ça, parce que sinon, on se serait écroulé les matchs d'après aussi. Donc difficile. Moi, enfin, j'ai juste envie de l'effacer ce match et puis de passer à la suite parce que enfin, il y avait rien à sauver. Moi, je sais pas comment tu as fait pour regarder le match.
Ah, ouais, c'était dur, mais j'ai décidé de souffrir jusqu'au bout. Et puis pour supporter ça, je me suis concentré sur la performance d'Abdelhamid, en fait. Parce qu'il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. Bon, moi, je dis tout de suite, j'étais content qu'il signe, hein, parce que j'avais en tête ses performances à Reims. J'avais en tête le fait qu'on avait besoin de, pour se maintenir, qu'on a toujours besoin de personnes qui ont une grande expérience de la Liga. Bon, j'avais une interrogation, comme tout le monde, sur son âge, mais j'étais content. En tous les cas, je me souviens que j'avais tweeté s'il est au même niveau qu'à Reims, ça va devenir le taulier de la défense, quoi. Et donc, c'est Abdelham. Pardon, j'ai un problème sur le. Voilà. Abdelhamid, j'ai été quelque part. Alors, est-ce que subjugué, c'est le terme? J'ai été hypnotisé, voilà. J'ai été hypnotisé par sa performance. Parce que je crois que dans toute ma vie de supporter, voire de joueur, même, je n'ai jamais vu une performance à ce niveau-là. C'est-à-dire, j'ai jamais vu un joueur aussi catastrophique que ça. C'est inimaginable. Enfin, ça m'a hypnotisé, ça m'a subjugué d'une certaine manière, avec un garçon plein d'expérience, donc qui ratait tout, mais qui en plus, sur le plan tactique de ses choix individuels même, faisait n'importe quoi, sortait à 45 mètres du but, il est sorti 10 fois de suite à 45 mètres du but, en retard de 3 secondes pour se faire mettre dans le vent et laisser des espaces monstrueux dans notre défense. Enfin, c'était absolument dingue, et on reviendra sur le cas Abdelhamid sans faire des attaques perso, voilà, mais bon, c'est un joueur de l'effectif, on peut parler de ses performances, quoi. On reviendra dessus quand on va débriefer le match à Lens. Mais voilà, moi, Abdelhamid, voilà, c'est lui, quelque part, en m'hypnotisant, qui m'a permis d'aller jusqu'au bout, où je me disais, mais est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'il va continuer à faire les mêmes choses qui ne fonctionnent pas et qui systématiquement amènent des situations dangereuses? Et la réponse a été oui. Il a continué. Verivel, tu parles du caractère, enfin de la réaction dans les matchs suivants, et je vais de demander l'avis à Parazar là-dessus, parce que moi, je suis mitigé par rapport à la réaction à Nantes en particulier. Parazar, première chose, est-ce que tu veux dire un mot sur Nice, même si on sait que tu n'as pas vu la rencontre, tu peux avoir quand même un avis sur la question. Et deuxièmement, est-ce que tu penses que notre match à Nantes prouve que ce groupe a quand même un peu de caractère?
Alors, sur le match à Nice, le seul truc que je pourrais en dire sans l'avoir vu, c'est que ça alimente pas mal quand même la théorie d'un championnat à deux vitesses, qui me semble assez, une théorie qui me semble quand même assez confirmée de journée en journée, avec les fessées qu'ont reçues Montpellier, les deux fessées au moins qu'on a reçues nous à Brest et à Nice, et puis les grosses difficultés que connaît Angers notamment. Et donc, je pense que c'est forcément pas totalement un accident, cette histoire à Nice, parce que je pense que tu prends pas 8-0 par hasard, que notre équipe est pas tellement du style à faire l'impasse sur un match, mais que ça traduit quand même une faiblesse un peu structurelle. C'est pas comme si on avait gagné les 7 autres matchs, quoi. Cette faiblesse, on l'avait déjà entrevue de façon moins spectaculaire. Mais bon, voilà. Donc, par ailleurs, je n'ai pas vu le match, donc je n'en dirai pas plus. Sur le sursaut, j'ai vu le match à Nantes, en revanche, et alors j'étais content de l'issue, évidemment, mais ça tenait du miracle, ce qui s'est passé. Il faut quand même être honnête, parce que on aurait pu se retrouver à 3-0. Sans que ce soit injuste, et on renverse on fait une meilleure deuxième mi-temps, c'est vrai, mais on a aussi de la réussite parce qu'on n'a pas 50 occasions et on marque 2 buts. C'est en revanche le match contre Auxerre qui, pour le coup, en termes de réaction, m'a largement plus plu. Ensuite, le commentaire que j'ai fait après Auxerre, c'est finalement je préfère la Ligue 2 que la Ligue 1, parce que j'avais l'impression que c'était une opposition de Ligue 2, de haut de tableau de Ligue 2, et qu'on était à notre niveau, et qu'à ce niveau-là, en tant que spectateur, je prenais du plaisir parce que je voyais mon équipe qui éventuellement pouvait en dominer une autre. Et puis par ailleurs, parce que ce que je retire de ce début de championnat, c'est quand même qu'on joue avec quasiment l'équipe de l'an dernier, à deux ou trois exceptions près. Et les deux ou trois exceptions près, si j'enlève le David Tajvili d'Auxerre, les deux ou trois exceptions près qui jouent n'apportent pas extraordinairement à l'équipe, quoi. Donc voilà, l'enseignement de tout ça, c'est qu'on sait réagir. C'était déjà le cas l'an dernier, rappelez-vous après Dunkerque, rappelez-vous après QRM. C'était déjà le cas cette année après Brest, puisqu'après Brest, on tape Lille. Donc, c'est sans doute un truc que Dalloglio sait bien faire aussi, parce que je pense que c'est l'équipe, mais c'est aussi le coach qui sait susciter ce type de réaction. Ça, c'est un point positif. Mais le fait est qu'on a aujourd'hui une équipe qui a le profil de l'équipe qui va lutter jusqu'au bout dans un championnat à 5 ou 6 en fin de classement, malheureusement.
Bon, moi, par rapport à Nantes, je suis vraiment sur la même ligne. C'est-à-dire que pour moi, ce match nul, il tient plus de la très grande réussite que d'une réaction. Parce que de réaction, il n'y en a pas eu. Alors, on revient à 2-1, je ne sais plus à quel 10e peut-être, comme ça. Mais avant ça, j'ai rien vu, quoi. Enfin, on a été très dominés. Ils sont rentrés dans la défense comme dans du beurre. Bon, on aurait pu, à mon avis, on aurait pu perdre 5-0 ce match si Nantes avait eu un peu de réussite. Donc, je suis très, très mitigé. Et pour le reste, évidemment, on a vu des choses bien plus intéressantes en termes de solidarité face à Lille et en termes de jeu face à Auxerre. Alors, justement, ces résultats positifs qui viennent un peu contrebalancer des matchs extrêmement médiocres comme à Brest, comme contre Le Havre, à Nice évidemment. Est-ce que, là aussi, est-ce que ça signifie quand même que ce groupe a des moyens et peut continuer à entrevoir des progrès et puis un maintien au bout du compte? Pat, je vais te poser la question. Ou est-ce que ce sont des matchs à réussite qui ne veulent pas dire grand-chose et qui ne donnent aucune certitude? Voilà, est-ce que dans ces rencontres-là, les rencontres positives, Lille, Auxerre, dans des styles très différents, Nantes, tu peux nous dire un mot dessus si tu veux? Est-ce que tu mets ça dans le très positif ou est-ce que tu penses comme moi que c'était surtout de la réussite? Est-ce que ça commence à nous donner quelques certitudes? Voilà.
Alors, donner des certitudes, ça me paraît très présomptueux à date. On a bien vu d'ailleurs sur le match contre Lens, dont on parlera après, que finalement ces certitudes s'envolaient face à une équipe qui était d'un niveau supérieur. Ce qu'on peut dire, c'est que contre Nantes, je te rejoins, hein, on a eu quand même une réussite extrême, hein, parce qu'on marque quasiment sur nos deux seuls tirs cadrés, sur nos deux premières occasions, alors que Nantes venait d'en rater 5 ou 6 quasiment pour n'en mettre que 2. On s'en sort.
Et Pat, je voudrais dire que quasiment le deuxième but, c'est même pas une occasion, hein, puisque c'est un coup de coude totalement inutile sur Mika Nadé.
Cadeau providentiel, ouais, effectivement, de la part des Nantais qui sont apparemment coutumiers du fait, hein, parce que c'était pas la première fois que ça leur arrivait de dominer un match de la tête et des épaules, puis de se laisser rejoindre, voire dépasser. Donc finalement, on en a profité et ça nous a permis aussi de se remettre les têtes à l'endroit, parce que vu comme c'était parti, on allait au même massacre qu'à Nice à peu de choses près. Donc finalement, on s'en sort très très bien et ça peut remis la voiture sur la route. Hein. Et contre Auxerre, bah, du coup, effectivement, on a vu une équipe qui s'est battue, qui a eu une tactique qui a fonctionné, mais pour le coup, je rejoins assez par hasard, c'était vraiment le match typique de la Ligue 2 qu'on a vécu la saison d'avant. Des matchs qu'on ne dominait pas forcément, qu'on ne maîtrisait pas, mais qu'on savait du coup se rendre, je ne vais pas dire facile, mais par des attaques assez tranchantes finalement sur les côtés qui ont porté leurs fruits. Mais quand on regarde au final les stats de ce match, notamment en termes de possession de balle, on se rend compte qu'au final, notre équipe n'est pas taillée pour prendre le jeu à son compte, dominer, et que chaque match qu'on va jouer tout au long de cette saison. On va certainement devoir se faire à l'idée qu'on laissera le ballon à l'adversaire et qu'on essaiera de s'appuyer sur la rapidité de nos attaquants pour les déborder, et en espérant avoir la réussite pour marquer. Ça fait quand même plutôt léger comme projet de jeu, et même si moi j'étais content en sortant du stade contre Auxerre de la victoire, j'étais quand même pas franchement rassuré et emballé parce que je voyais, quoi. Je me disais qu'il manquait vraiment quand même beaucoup de maîtrise, et notamment de notre milieu de terrain dont on reparlera. Je pense qu'on est clairement en dessous du niveau Ligue 1 sur ce poste-là et que ça va nous porter préjudice toute la saison. J'espère néanmoins que dans notre championnat à 5 ou 6 qui nous attend, puisqu'on aura vraiment des équipes de ce niveau-là pour lutter contre pour le maintien, on arrivera malgré tout à prendre des points comme pour l'instant on arrive à les prendre, et espérer se sauver quand même malgré tout en fin de saison. Mais on ne va pas vivre une saison hyper emballante, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, alors effectivement, c'est ce qui semble se dessiner. Avant de solliciter Dissident au sujet des résultats positifs, mais il y a déjà eu quelques craintes malgré ces résultats positifs sur la manière, des craintes qui ont été exprimées. Des réactions sur le forum, par hasard.
Oui, juste une réaction assez intéressante de Steph par rapport à Nice, en fait. Donc je suis un petit peu en différé sur le commentaire de la réaction, mais Steph dit finalement il y a peut-être une conjonction de plusieurs raisons qui expliquent le naufrage de Nice. La réussite lunaire des Niçois d'une part, le fait que manifestement les Verts avaient un problème physique, un déficit physique, et qu'ils couraient complètement à côté des joueurs niçois. J'ai perdu le message de Steph. Je termine, si vous m'entendez toujours, ça y est, je l'ai retrouvé. Le fait également que nos joueurs ne se connaissent pas suffisamment, que c'est le début de saison, et puis la faiblesse technique de notre effectif, associée au fait que peut-être Dalloglio est un peu ambitieux dans son jeu et n'a pas fait le choix de jouer avec trois vrais milieux défensifs à l'extérieur pour cadenasser un peu, mettre un peu le bus sur certains matchs. Donc une conjonction d'un certain nombre de raisons, d'après Steph.
Ouais. Là où je ne le rejoins pas, c'est sur la réussite insolente des Niçois, parce que moi j'ai l'impression que s'ils avaient une réussite insolente, on en aurait pris 15 des buts, mais... Alors, j'ai surtout vu des joueurs faire des différences individuellement, collectivement, sans beaucoup de difficultés, mais de la réussite, j'en ai pas vu tant que ça, on va dire. Bon, on pourrait parler aussi, j'avais envisagé d'en parler, mais on a dit qu'on ferait pas longtemps sur Nice, des changements de Dalloglio, que Dalloglio a fait à 4-0, là, à la 36e, où il sort Mouefek, il sort Cornu. Il sort Amougou, je crois, et Abdelhamid reste sur le terrain. Enfin, pour moi, totalement incompréhensible. Mais bon, bref, c'est comme ça. On va laisser Nice de côté. De toute façon, on va être amené à reparler ces choses-là quand on va parler de Nantes. Donc, on revient aux résultats plutôt positifs. Quels enseignements peut-on en tirer? Est-ce que ce sont des matchs avec beaucoup de réussite pour nous, ce que je pense, par exemple à Nantes, puisque aller faire match à Nantes, c'est un résultat positif, ou est-ce qu'il y a des vraies qualités qui ont été démontrées par l'effectif, par l'équipe et pourquoi pas par son entraîneur? Dissident, on voudrait ton avis donc sur les matchs concernés, Nantes et Auxerre en priorité, et si tu veux revenir sur le match de Lille, pas de problème.
Oui, bah, en fait, ça prouve que dans un bon soir avec de la réussite et une certaine réussite tactique, on peut battre des gros, parce que Lille, c'était pas un petit morceau. Mais après, je rejoins. Alors, ça me rassure en fait de vous entendre, parce que c'est vrai qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est faible, quoi. Hein, finalement, il y a une sorte de consensus là-dessus. Je pense qu'il faut se préparer une saison où on va perdre beaucoup de matchs. L'avantage, comme le disait par hasard, c'est qu'il y a d'autres équipes qui sont avec nous dans notre cas, dans notre sous-division, on va dire. et que finalement aujourd'hui, malgré les fessées qu'on a pris à Brest et à Nice, malgré la faiblesse de matchs comme contre le Havre, malgré tout aujourd'hui on est à une place qui nous permettrait, si le championnat s'arrêtait, d'être sauvé, et c'est juste ce qu'il faut espérer. J'espère que au fur et à mesure de la saison, on va un petit peu monter en automatisme, parce que c'est vrai qu'on finalement on a eu pas mal de nouvelles arrivées, que les recrues qui sont arrivées, qui n'ont pas encore beaucoup joué, elles vont enfin apporter un petit peu un plus. Et puis on en parlera peut-être un petit peu après, mais il y a aussi le mercato d'hiver qui est déjà dans toutes les têtes pour dire on va peut-être pouvoir se renforcer. D'ici là, il va falloir serrer les coudes et puis espérer de prendre le plus de points, parce qu'on a clairement compris là en 8 matchs qu'on avait à peine le niveau de la Ligue 1, et je pense que c'est pas insultant de dire ça sur notre équipe, faut en avoir bien conscience.
Oui, le mercato, on va aborder le sujet quand on parlera un peu de l'avenue de Larry Tannenbaum en fin d'émission, parce que quand on écoute son discours, on se dit que c'est effectivement une possibilité que l'effectif soit renforcé. Alors, on est faible, etc., mais d'accord. Mais moi, je regarde, j'ai regardé, alors je regarde quasiment pas de foot en dehors des Verts. Par contre, Brest, je les ai vus 2-3 fois, y compris contre nous. Et j'ai du mal à voir l'effectif de Brest comme étant un effectif intrinsèquement très supérieur au nôtre. Alors, supérieur peut-être, très supérieur au nôtre, au point de gagner des matchs en Ligue des Champions. Alors que nous, on prend 8-0 à Nice, je me dis qu'il y a autre chose que la qualité des joueurs qui entre en jeu. Alors, Verivel, le match contre Auxerre, je suppose que comme nous, tu as apprécié. Est-ce que tu as eu, pour avoir une unanimité sur le sujet, est-ce que tu as eu le sentiment qu'on avait pas mal de réussite? Et Pat a décrit un petit peu des choses, effectivement, qu'on a vécues l'année dernière. Il y a plusieurs matchs de la saison dernière qui ont ressemblé à ça. Est-ce que ça t'a évoqué ça aussi?
Oui, c'est vrai que je suis comme par hasard. Et Pat, hein, je trouve que ça ressemblait à un match de Ligue 2. Après, quand même, la performance de Davitashvili là, sur ses 3 buts, c'est quand même une belle performance de Ligue 1, quand même, parce que faut les mettre, hein, ces 3 buts. Et donc, du coup, ce qui nous intéresse, comme on disait tout à l'heure, c'est ce championnat là, à 5 ou 6 équipes, plutôt 6 peut-être, ou sur lequel il va falloir prendre les points qu'on peut contre ces adversaires-là. Donc moi, ce qui m'a un petit peu rassuré par rapport au match précédent et notamment celui contre le Havre, c'est qu'on arrive à gagner, quoi. Qu'on arrive à bien gagner d'ailleurs, contre un adversaire qui va être dans notre championnat. Donc ça, c'était plutôt rassurant. À cette époque-là, parce qu'on voit bien, dès que le niveau s'élève un petit peu, on l'a vu contre Lens, que ça devenait très compliqué et que ça allait être très compliqué de gagner des matchs et même de faire des matchs nuls. Donc voilà. Pour moi, quand même, sur ce match d'Auxerre, on a quand même réussi à élever le niveau de jeu suffisamment pour pouvoir battre cette équipe de notre championnat. Donc, et j'ai trouvé aussi que au niveau de la tactique, c'était quand même pas trop mal fait. C'est-à-dire que on avait un plan de jeu qui était intéressant par rapport à cette équipe d'Auxerre. Donc, oui, c'était une sorte de soulagement pour moi.
Oui, un soulagement, quelques motifs de satisfaction quand même. On va le dire, Pat l'a très bien dit, des attaques sur le côté, souvent des contre-attaques, mais en tous les cas, un jeu sur le côté performant, des deux côtés d'ailleurs, hein, parce qu'il y a Davitashvili qui fait son triplé, très bien, bravo. Mais le petit mec de l'autre côté, là, le petit Ben Hold, je pense qu'il fait un gros, 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 gros match aussi, avec une activité énorme. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. On va bientôt en parler de Ben Hold. Donc voilà, on a fait un peu le tour des résultats positifs. Arrive le moment où on va parler de Lens. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque l'analyse de cette rencontre sur les choix d'Olivier Dalloglio. Alors, à mon avis, il y a deux choses essentielles à dire. Il y a déjà le truc le plus évident. Alors, j'ai vu. Pour bon, moi, j'ai été. Je sais pas s'il faut dire étonné, mais la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'est quand j'ai appris la composition choisie par Alain Perrin contre le Werder Brême. Voilà, en quart de finale de la Coupe de l'UEFA, ou je sais pas si ça s'appelait l'Europa League ou quoi, là. Pour moi, c'est un sabordage. Voilà. Un sabordage, la titularisation d'Abdelhamid, qui, pour moi, à nouveau, vous direz ce que vous en pensez, n'est pas du tout au niveau de la Ligue 1 actuellement. Il a fait un match correct contre Lille, parce qu'on a 24% de possession, qu'on est dans nos 25 mètres tout le temps et qu'on joue en contre. Alors, effectivement, là, il n'avait pas la possibilité de sortir à 50 mètres du but et de laisser des boulevards, d'arriver 3 secondes en retard et de laisser des boulevards derrière lui. On a du bol qu'il n'ait pas provoqué un penalty. Donc il y a ce choix-là très fort. Abdelhamid qui a été toujours défendu par Dalloglio. Il l'a choisi comme capitaine. Pour moi, c'est une erreur, mais vous me direz aussi ce que vous en pensez. Donc ça, c'est le premier point, Abdelhamid. Et puis le deuxième point, c'est un point tactique avec des Lensois qui n'étaient pas mis en difficulté derrière. Et donc, ce n'était pas un 5-3-2, c'était un 3-5-2, là, avec leurs deux joueurs de couloir qui jouaient milieu de terrain, en fait, complètement. Et on s'est retrouvé à 3 contre 5. Et il n'y a eu aucune réaction de Dalloglio dans cette première période où on a été ultra dominé au milieu de terrain. Et c'est d'ailleurs Frankowski, un joueur de couloir, qui ouvre la marque d'une frappe plein axe, ce qui prouve bien qu'il avait toute liberté d'agir au milieu de terrain. Alors, on peut commencer par hasard peut-être sur ce match contre Lens. On commence par parler de ça, puis après on pourra aborder d'autres points si vous le souhaitez. Les choix de Dalloglio, on commence par Abdelhamid, le retour d'Abdelhamid alors qu'on avait une charnière centrale qui avait donné quelques garanties, Nadé Batoubine-Sika. Comment tu as reçu ce choix de Dalloglio avant le match et comment tu l'analyses après le match?
Bon, alors déjà, je l'ai pas reçu de façon aussi. Je suis pas tombé de 10 étages comme toi en l'apprenant, et ça m'a moins, à la fois, ça m'a moins surpris et ça m'a pas non plus scandalisé. Moi, ça m'a moins surpris parce que je vois bien ce que Dalloglio cherche à faire. Il veut pas perdre celui qu'il considère comme étant potentiellement son taulier, donc il veut pas l'écarter définitivement. Batoubine-Sika était revenu l'avant-veille de son déplacement, je ne me souviens plus si c'était en Tanzanie, mais de son déplacement en Afrique. Et donc je me dis, bon, bah, il essaye de remettre Abdelhamid, qui a probablement, enfin, qui a fait les 15 jours d'entraînement avec Nadé pendant que Batu était loin. Je me dis pourquoi pas. Évidemment, il y a un côté un peu surprenant parce qu'on ne change pas équipe qui gagne et que donc on aurait pu imaginer qu'il maintienne sa confiance à Batu à côté de Nadé. Mais voilà, ça ne m'a pas surpris. Il a d'ailleurs dit aujourd'hui en conférence de presse qu'il estimait qu'il avait 3 défenseurs centraux avec des profils un peu différents mais de niveau équivalent. Et que donc, et il voulait rester dans cette logique d'émulation, de concurrence pour que personne ne se repose sur ses lauriers. Il a dit ça aujourd'hui. Et ça ne m'a pas scandalisé parce que j'ai pas envie qu'on. Enfin, je suis d'accord qu'il est décevant, Abdelhamid, évidemment, mais bon, globalement, de toute façon, je trouve que notre mercato aujourd'hui a peu de valeur ajoutée. Et finalement, c'est le seul qui aurait dû avoir une valeur ajoutée immédiate parce qu'il n'y avait pas de problème d'acclimatation. À un championnat et à une langue, à un pays, etc. Donc il est décevant, c'est vrai, mais On est en début de championnat et en l'occurrence contre Lens, on ne perd pas à cause de lui. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord du tout pour dire qu'on perd à cause de lui. Évidemment, il a fait deux, trois trucs bien limites, une montée à un moment donné où il perd le ballon qui aurait pu mal se terminer. Le penalty, bon, il y a hors-jeu, donc il n'y a pas penalty, mais c'était quand même encore très maladroit. Je suis assez d'accord avec ça. Maintenant, Nadé a fait aussi une boulette. Larsot a quand même fait aussi une boulette, il faut quand même qu'on le dise. Et globalement, on perd parce qu'on a un milieu qui court à côté des joueurs, qui intercepte aucun ballon, et parce que du coup, on est dominé de la tête et des épaules par Lens, c'est que forcément, ça doit craquer, quoi. Mais je veux dire, il faut, enfin, dans un match comme ça, moi, je pense qu'on peut pas on peut pas tirer à boulets rouges sur Abdelhamid en disant que c'est le maillon faible, quoi. Donc, moins surpris que toi et pas scandalisé, même si évidemment il apporte pas satisfaction, il tire pas l'équipe vers le haut depuis le début du championnat, ça c'est clair.
Alors, j'entends tout ce que tu dis. La question, ce n'est pas tellement de savoir si on a perdu à cause de lui. La question, c'est le choix de Daloglio. Est-ce que c'était pertinent? Donc, tu y réponds, tu dis, pas choquant. Il y a l'excuse qui est la seule, à mon avis, recevable des matchs internationaux de Batoubine Siga. OK. Tu nous dis Abdelhamid ne tire pas le groupe vers le haut. En gros, c'était le seul qui devait avoir une vraie valeur ajoutée, puis ce n'est pas le cas. OK. Alors, moi, mon ressenti, en essayant bien sûr de ne pas prendre le joueur en grippe, parce qu'après, il y a toujours les biais de confirmation. On est persuadé qu'avant même le début du match, on ne regarde que ça. Bon, voilà. Donc, il faut faire attention. Mais mon ressenti depuis le début de la saison, ce n'est pas qu'il est décevant, c'est qu'il est carrément pas au niveau. Enfin, qu'il est catastrophique. Alors, Pat, je viens vers toi. Abdelhamid, légèrement décevant. Trois défenseurs centraux. Alors, ça m'énerve parce que j'ai à moitié pas eu le temps et à moitié oublié d'écouter la conférence de presse en replay, alors que j'essaye de jamais les rater. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais bon, voilà, par hasard, on nous explique que d'après Olivier Dalloglio, il y a trois défenseurs centraux du même niveau. Alors, tu es sur quelle position par rapport à ce cas particulier d'Abdelhamid Pat?
Alors, moi, pour ma part, j'avoue être très très déçu pour l'instant du début de saison d'Abdelhamid, parce que si on excepte le match contre Lille, où on peut dire que ça a été sa meilleure performance de la saison, où il a quand même tenu la baraque avec le reste de l'équipe en subissant énormément, on peut pas dire que pour l'instant il apporte la sérénité et l'expérience à ses partenaires tels qu'on pouvait l'espérer. Alors bien sûr, il a des limites physiques dues à son âge et qu'on comprend parfaitement, mais pour l'instant il n'arrive pas à compenser par son placement, il n'arrive pas à compenser en plaçant ses partenaires. Alors peut-être aussi que le système à 4 derrière ne l'avantage pas, il était peut-être plus à l'aise dans un système à 3 centraux comme il pouvait l'être à Reims, mais clairement pour l'instant, pour moi, il répond pas du tout aux attentes. Pour le match contre Lens, effectivement, je rejoins par hasard, il fait pas d'erreurs manifestes, en tout cas qui sont décisives au niveau du score. Mais bon, on a vu quand même qu'il était tout le temps à l'arrache, quoi. Chaque fois, quand il doit faire une course pour aller suivre un joueur, il était tout le temps largué. Il revient toujours à la limite limite. Je l'ai beaucoup observé, moi, depuis le Kop Nord, du coup, notamment sur la première mi-temps, où on avait du coup les Lensois qui attaquaient face à nous. C'était vraiment pénible à suivre pour lui. Alors, évidemment, il n'est pas aidé par le reste de l'équipe, hein. Pour moi, plus que lui, le gros gros problème de cette équipe, c'est surtout son milieu de terrain, hein. Clairement, qui laisse tellement passer les vagues sans lutter. C'est Dissident qui disait ça tout à l'heure de très très bien. Le problème, c'est que notre milieu, il fait pas son travail défensif. Alors aussi parce qu'il est en sous-nombre par rapport au celui de l'adversaire, mais effectivement, on a des joueurs qui courent à côté des milieux adverses. Il y avait tout le temps un ou deux Lensois qui se retrouvaient seuls dans le sens du jeu, face au jeu, face aux centraux, et à chaque fois, ça faisait toujours du surnombre. C'était compliqué, évidemment, pour lui de suivre. Mais voilà, donc, mais on touche aux limites d'Abdelhamid en tant que tel. J'en veux plus, personnellement à Dalloglio sur ce coup-là, qui a pris le risque de casser une charnière qui avait quand même montré des signes positifs depuis deux matchs, qui avait certes pris des buts, mais qui en avait pris beaucoup moins que l'ancienne charnière avec Abdelhamid. Et pour moi, c'était une erreur manifeste de la remplacer, même s'il y a eu, je comprends, les matchs internationaux qui ont fait que c'était compliqué pour lui peut-être de le refaire jouer tout de suite, Batoubensika en tout cas. Mais c'était pour moi une erreur, j'avoue ne pas avoir compris, j'ai été très surpris en voyant la composition d'équipe, j'ai tout de suite pensé à ça évidemment, mais en me disant « mais j'ai très peur de ce qui risque de se passer sur le terrain ». Et pour moi, voilà, Abdelhamid ne doit plus débuter, et en tout cas ne plus débuter également avec le brassard, parce que déjà que c'est compliqué pour lui sur le terrain, le fait d'avoir le brassard en plus stigmatise sur lui les critiques négatives reçues par l'équipe, et en plus en font une tête de turc toute trouvée pour une certaine partie du public. Donc pour moi, clairement, y a des choix, ce choix-là doit être changé très très vite par Dalloglio.
Ouais, il n'est pas question de que ça devienne la tête de turc de l'émission, en tous les cas, ça c'est évident. Mais moi, je trouve qu'on est dans une situation là où Abdelhamid, on fait le constat, enfin, comme ça que je reçois ce que vous dites. Il a été médiocre contre Lens, d'accord, mais ce n'est pas à cause de lui qu'on perd. Bon. On ne peut pas se satisfaire de ça, quoi. Faut être un peu sérieux. Et tu remets dans la discussion le choix du capitana. Alors ça, c'est moi, c'est une vraie question aussi sur les choix de Dalloglio, le choix du capitana, alors qu'on avait, à mon avis, des candidats bien mieux placés qu'Abdelhamid pour être capitaine de l'équipe. Et je pense par exemple à Gauthier Larsonneur ou à Ayman Mouefek, qui pour moi, je sais pas, s'imposait de manière quasiment naturelle. Alors, dissident, peut-être un petit mot sur le capitana, si tu as quelque chose à dire là-dessus. Peut-être un petit mot rapide, si tu as envie d'ajouter quelque chose, en tous les cas, sur la titularisation d'Abdelhamid à la place de Batoubensika. Pour moi, l'excuse des matchs internationaux, justement, ou l'explication, c'est une excuse. Pour moi, il a sauté sur la première occasion pour le remettre, parce que depuis le début, il dit qu'il a un rôle à jouer, machin truc. Enfin, c'est comme s'il voulait prouver qu'il avait raison sur le sujet, et à mon avis, il a tout à fait tort. Mais bon, dissident, tu diras ce que tu en penses sur le sujet. Et puis après, j'aimerais bien qu'on parle de l'absence de réaction de Dalloglio sur le sous-nombre dont j'ai parlé. Qui était dû au fait que nos trois offensifs ne mettaient pas en danger les trois centraux de Lens, et donc on avait des pistons lensois qui jouaient carrément au milieu de terrain, et on se retrouvait à 5 contre 3 et on prenait des vagues. Voilà. Pas de réaction, est-ce que c'est normal entre guillemets? Est-ce que pour toi un coach doit être capable de faire évoluer son équipe plus vite? Est-ce que c'était juste lié au fait qu'ils étaient meilleurs que nous, il n'y avait pas grand-chose à faire? Enfin voilà, quel est ton sentiment sur ce point-là également? Ça fait trois points, deux rapides et puis un peut-être où tu peux développer un peu plus si tu le souhaites en tous les cas.
Ouais, c'est une mission compliquée. Là, il y a beaucoup de matière dans ce que tu me demandes. Je voudrais quand même mettre un tout petit bémol quand même sur Abdelhamid et sur la titularisation contre Lens, c'est que on connaît Dalloglio, et pour lui, et il l'a redit d'ailleurs effectivement aujourd'hui en conférence de presse, comme le soulignait par hasard, lui, il ne va pas hésiter à casser une charnière, et pour lui, c'est très important d'avoir trois défenseurs centraux qui vont jouer à peu près de manière égale. Et souvenez-vous, l'année dernière, c'est exactement ce qu'il a fait. On a joué avec Briançon, Batoubensika et Nadé qui ont eu à peu près le même temps de jeu. Et il n'a pas hésité à casser ses charnières. Je me souviens qu'au printemps, il avait mis Batoubensika plusieurs matchs de suite sur le banc, sans vraiment de raison, hormis que Batoubensika avait fait la canne un peu plus tôt dans l'année. Et puis en fin de saison, il avait fait le choix fort de mettre Briançon sur le banc pour les matchs de play-off. Donc ça, c'est...
Alors que Briançon, par exemple, contre Bordeaux, avait été excellent.
Exactement. Et donc, ça je pense qu'il...
Ouais. Ouais. Alors, ça, juste un truc, excuse-moi, ouais. Mais je peux pas me retenir de parler par rapport à ça, de réagir. on avait effectivement trois défenseurs centraux de niveau équivalent. Je ne vais pas dire identique, ça n'a pas de sens, mais au moins de niveau équivalent l'année dernière. Ça, c'était vrai. Est-ce que ce qu'a dit Olivier Dalloglio en conférence de presse aujourd'hui, est-ce que c'est vrai selon toi ?
Eh ben non, non. Mais en tout cas, je suis pas surpris que dans son esprit, en tout cas, il veuille se persuader qu'il faut qu'il ait trois défenseurs centraux de même niveau. Et en fait, ce qui est très intéressant sur le cas Abdelhamid, moi, ce qui m'intéresse dans les réactions d'Aloglio, c'est justement le tandem d'Aloglio Abdelhamid. Et tu as très bien fait de mettre sur le tapis la question du capitana. Parce que c'est quand même assez passionnant ce qui se passe avec Abdelhamid et Dalloglio depuis le début de la saison. Et en particulier, moi, j'ai très mal vécu la conférence après la défaite contre Lens, où Dalloglio s'emporte contre les sifflets qui ont accompagné la sortie d'Abdelhamid. Je trouvais vraiment que c'était déplacé de fustiger comme ça le public stéphanois, alors que... C'était juste des sifflets de fin de match un peu frustrés de la défaite et de la prestation d'Abdelhamid. Il ne me semblait pas qu'Abdelhamid a été insulté pendant le match. Il n'y a pas eu de banderole, il n'y avait rien de prémédité, il n'y avait rien de très grave. Et je trouve qu'en appuyant là-dessus, il détourne un peu le véritable débat qui est le fait que Abdelhamid, il répond pas aux attentes. L'année dernière,
on peut le dire, ouais. Dissident, je pense, c'est une diversion.
Ouais. L'année dernière, il faut rappeler quand même qu'on est monté avec quelques coups de génie de Cardona, mais on est surtout monté parce qu'on avait la meilleure défense de Ligue 2 et c'était un point très solide de notre équipe. Et que, alors, Dalloglio, il avait tout à fait le droit d'estimer qu'il fallait du renfort. Et ça, je pense que quand Abdelhamid est arrivé, nous, on était plutôt OK avec ça. Mais par contre, quand tu fais venir quelqu'un avec de l'expérience et que tu le mets dans une défense qui vient de terminer meilleure défense de Ligue 2, il faut que tout de suite, ce joueur-là, il montre qu'il n'y a pas de discussion, quoi. Qu'évidemment, il est au-dessus des autres. Et ce n'est pas du tout ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Et je pense que le problème est un peu en train de se cristalliser parce que plus le match avance, plus Abdelhamid est en manque de confiance et plus Dalloglio le défend maladroitement. Et je pense que c'est ça qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'on a un coach qui s'entête un petit peu sur ce point-là.
Oui, et puis on a voulu... Olivier Dalloglio, il veut en faire... un capitaine dans l'état d'esprit aussi, hein, un rassembleur de troupes. Et moi, je vois ces scènes où Abdelhamid réunit quelques joueurs et leur parle, s'agite beaucoup, manifestement donne des conseils. Et je me dis, évidemment qu'il est dans son rôle de capitaine quand il fait ça. Et je me dis, quand c'est toi le plus mauvais sur le terrain et que tu fais ça, est-ce que au niveau du groupe ça peut être entendu, est-ce que ça peut bien se passer? Moi j'ai peur qu'à terme, si Dalloglio continue à s'entêter à mon avis, pour moi hein, à nouveau, on peut pas être d'accord, mais contre l'évidence même, s'il continue à s'entêter, j'ai peur que ça commence à poser des problèmes. Dissident, tu reviendras sur les non-ajustements tactiques de Dalloglio, si tu as quelque chose à en dire sur le sous-nombre en milieu de terrain. Mais je crois que par hasard, vous voulez dire un truc là. Mais il n'a pas levé la main, alors je ne pouvais pas savoir.
Je voulais demander à Dissident s'il était au match et quelle a été sa première réaction, parce que je pense qu'il l'était, mais quelle a été sa première réaction quand il a vu Abdelhamid sortir sous les sifflets? Parce que moi, vous m'étonnez un peu sur ce coup-là. Je te laisse pas répondre parce que parce que j'imagine que ça t'a pas plu. Mais enfin, je sais pas, t'étais au match ou pas?
Non, j'étais devant ma télé. Je suis un peu loin pour aller au match, j'étais là.
Et parce que moi, vraiment, ça m'a énervé tous ces sifflets. Je l'ai applaudi d'autant plus fort, même si je l'ai pas trouvé très bon, mais je l'ai applaudi parce que par principe, je siffle jamais les verts. Mais j'ai trouvé que c'était... Enfin, clairement, c'était le bouc émissaire d'une partie du public qui l'a sifflé. Pas tout le public, évidemment, parce que c'était en latéral. Et d'une part, donc, moi, en tant que supporter, ça me choque qu'il ait été sifflé. Donc, je suis comme Dalloglio, je suis choqué. Sauf que moi, je suis pas en conférence de presse après le match, je n'ai pas la responsabilité de l'équipe. Mais Dalloglio, qui est responsable de cette équipe, cette équipe, elle est en difficulté. Il n'a pas 50 solutions en défense centrale si Nadé ou Batu se blesse. C'est important pour lui d'avoir un troisième défenseur central et de ne pas le perdre. Donc, c'est évident, ça me paraît évident qu'il est obligé de le défendre publiquement, parce que ça sera bénéfique pour le groupe. Ça sera bénéfique pour la confiance d'Abdelhamid, qui est évidemment déjà un peu plus qu'un peu fragilisée. Donc, à la fois, moi, ça m'a bien gonflé les sifflets, et à la fois, je comprends pas que la réaction de Daloglio vous ait surpris en conférence de presse, ou vous ait déçu.
Non, c'est pas. Oui, enfin, alors, il y a plusieurs choses. Dans ce que tu dis. Non, je suis pas d'accord. Déjà, pour moi, les sifflets, ce sont des sifflets contre le choix de Daloglio et pas contre Abdelhamid, déjà, pour commencer. Même si c'était lui qui a été sifflé, je ne dis pas le contraire. Mais pour moi, le fondement, c'est ça. Ce n'est pas la performance d'Abdelhamid contre Lens, qui, je répète, a été médiocre. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Alors, évidemment, je l'ai regardé un peu parce que je me suis dit, c'est tellement aberrant ce choix que je vais quand même essayer d'être le plus objectif possible. Bon, je pense qu'il fait une performance médiocre. Mais c'est la forme de ce que fait Daloglio. Daloglio, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Il n'y a que les sifflets. On a l'impression qu'il n'y a que les sifflets. La vérité… Attends, juste, je termine. La vérité, c'est que dans ce match, il n'y a pas que les sifflets. Ce match, il commence par son choix de le titulariser. C'est le premier point. Et puis après, on se fait bouffer, il ne réagit pas. On va en parler, j'espère. Juste parler de sifflets qui en plus c'était pas une bronca de tout le stade, comme l'a dit Dissident, c'était pas des insultes, des machins. Alors il peut les regretter, mais de là à nous sortir le coup de la colère surjoué parce qu'il y a eu quelques sifflets en latéral, pour moi c'était clairement de la diversion.
Bah, ouais, la défense de son groupe, son joueur. Encore une fois, il a largement abordé d'autres sujets que celui-ci. Hein. Il a expliqué qu'il avait l'impression de voir une équipe U19 face à des pros. Il a dit quand même beaucoup de choses. Et je ne vois pas ce qu'il y a de choquant d'entendre un coach. C'était la première fois de l'année qu'on avait un joueur qui sortait à ce point sous les sifflets. Honnêtement, dans le stade, on les a bien bien entendus, les sifflets, hein. C'était pas quelques mecs isolés. Moi, je vois pas ce qu'il y a de choquant à ce qu'ils le défendent. On est en début de championnat, c'est trop tôt pour qu'on se permette de perdre un joueur.
Tu as 100% raison avec ça. Tu as 100% raison avec ça. Ce que je dis, c'est que dans son discours général, qui est de dire Abdelhamid, c'est notre capitaine, il est important, il est investi, il rejouera, quoi qu'il arrive, il rejouera. Bon, rien que ça, c'est discutable. Quoi qu'il arrive, il rejouera. On a trois défenseurs centraux de même niveau. Ben, je suis désolé, on n'a pas trois défenseurs centraux de même niveau. On a un mec qui a oscillé entre médiocre et nullissime suivant les matchs. Et on a deux autres qui ont été bien meilleurs. Et d'ailleurs, lorsque Nadé rentre à Nice, la différence que ça a fait visuellement par rapport à Abdelhamid, c'était catastrophique pour le pauvre Abdelhamid.
Je suis d'accord, enfin, il n'y a pas débat sur Nadé. Moi, je suis fan absolu de Nadé. Mais qu'est-ce que tu imagines qu'il peut dire d'autre ? Il ne va pas publiquement dire, en fait, de la même façon, il ne dit pas publiquement aujourd'hui que sur ses joueurs offensifs de côté, il ne dit pas publiquement qu'il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres. Et même chose au milieu de terrain, et il faut dire qu'au milieu de terrain, on ne voit pas que tellement qui est meilleur que l'autre, mais il ne peut pas se permettre de dire ça.
Par hasard, on est d'accord que dans les conférences de presse de début de saison, il a très largement sous-entendu que le recrutement était décevant, que ça ne correspondait pas en gros à ce qu'il attendait, qu'il allait falloir faire avec, etc. Donc, il est capable de dire des choses de cet ordre-là. Alors, on sait aussi qu'il y a une manière de communiquer en ne disant pas. Hein, si tu ne dis pas que tu as trois défenseurs centraux de même niveau, je ne pense pas qu'on va t'attaquer, mais au moins tu ne dis pas une connerie énorme. Il n'est pas obligé de la dire, celle-là.
Un peu, parce qu'il est interrogé là-dessus. Enfin, tu écouteras la conférence de presse, mais il y a, je ne sais pas quel journaliste, parce qu'on ne les voit pas, mais qui lui pose la question.
Bah, écoute, moi, ce que je vais te dire un truc qui me revient en tête pendant une conférence de presse. On l'a interrogé en début d'année sur Nadé. dans une conférence de presse. Parce que Nadé, il n'a pas joué en début d'année. On est d'accord. Et il a expliqué que Nadé, il n'était pas encore au niveau, qu'il avait une préparation qui n'était pas complète, fallait qu'il travaille pour revenir à son meilleur niveau et se mettre au niveau des autres. Voilà ce qu'il a dit sur Mika Nadé. Donc, tu vois, là, moi, pour moi, il fait un cas particulier avec Abdelhamid. Tout ce que tu dis, je l'entends et je trouve que c'est tout à fait recevable. Ne pas perdre un troisième défenseur central qui soit concerné, qui puisse rentrer sans que ça soit trop pénalisant. Ça, d'accord, son rôle d'entraîneur. Mais il a été capable de dire certaines choses sur certains joueurs ou de manière générale. Et dès que ça touche Abdelhamid, parce que j'ai l'impression, je ne sais pas comment ça s'est passé son recrutement, mais c'est comme si c'était un choix de Daloglio, j'ai l'impression qu'il en fait un cas particulier et qu'il veut le défendre envers et contre tous, que ce soit le recrutement, la titularisation, etc. Et moi, ça me gêne, parce qu'il y arrive un moment, il faut regarder la vérité en face, et le fait est que ça pénalise l'équipe. Et moi, ça m'ennuie que ça pénalise l'équipe. Alors, c'est mon sentiment, tu n'as pas tout à fait le même, mais vraiment, je ressens ça comme ça.
Pour ça, quoi. Je suis d'accord qu'il le défend beaucoup, évidemment, c'est visible, mais je pense qu'il ne peut pas faire autrement. Et à ce poste où pour l'instant on n'a plus que trois joueurs, je vois pas quel autre acte managérial pertinent il pourrait faire que d'essayer de ne pas perdre celui qui est en difficulté, quoi. En fait, c'est trop tôt. À la trêve, peut-être que si en gros Abdelhamid fait 10 matchs d'ici la trêve sur les 17 et qu'il est toujours aussi emprunté, je pense qu'à un moment donné, il va finir par le lâcher, mais je pense que c'est trop
tôt. S'il fait 10 matchs sur les 17 jusqu'à la trêve, c'est mon cœur qui va lâcher, hein. C'est pas Abdelhamid. Hein. C'est pas Daloglio qui va lâcher Abdelhamid. Bon, ok. Avant de donner la parole à Pat et Verivel, dissident, est-ce que tu as un petit mot à dire sur... Bon, déjà, peut-être que tu n'es pas d'accord sur l'analyse que j'ai faite, qui est qu'il y avait un surnombre très important des Lensois au milieu de terrain, c'est le premier point. Et deuxième point, est-ce que tu as le sentiment que c'était trop tôt pour faire un ajustement tactique? Ou est-ce que c'est un truc qu'on peut reprocher à Daloglio?
Pour moi, c'est le problème principal de l'équipe en ce moment, en fait. Hein. Parce qu'on parle beaucoup d'Abdelhamid, c'est vrai que c'est un problème, la défense centrale, mais le problème numéro un, pour moi, c'est le milieu de terrain, parce que on se fait quand même très, très facilement marcher dessus au milieu de terrain. J'ai vu encore la première mi-temps contre Lens, on a vu encore beaucoup de duels perdus, d'interceptions manquées, on était à contre-temps. Même les matchs qu'on a gagnés contre Auxerre, on n'a pas dominé dans ce secteur-là. Contre Auxerre, on a gagné parce que c'est sur les côtés qu'on a performé. Et pour moi, c'est effectivement une problématique importante parce qu'en Ligue 1, avoir un milieu de terrain présent, c'est très très important. Et pour l'instant, on n'est clairement pas au niveau. Et ce qui me choque un petit peu, c'est que autant Daloglio tente des choses dans sa défense centrale et n'hésite pas à casser ses charnières, autant au milieu de terrain, malgré les vagues qu'on se prend match après match, on a une sorte de stabilité du milieu de terrain avec Ekwa, Mouefek et Amougou qui sont, me semble-t-il, enfin, quasiment titulaires à chaque match. Alors qu'on a quand même pas mal de milieux dans l'effectif. Et moi, tu vois, c'est là où j'attendais vraiment sur la conférence de presse après le match contre Lens. J'aurais aimé qu'il passe outre les sifflets qui pour moi était vraiment quelque chose de léger, de pas tellement important. Et j'aurais bien aimé qu'il nous rassure sur le fait qu'il a des solutions et des axes de réflexion pour ne plus qu'on se fasse balader autant match après match, quoi.
Ok. Pat, au sujet de ce milieu de terrain, alors tu pourras dire un mot sur Abdelhamid en préambule si tu le souhaites, mais au sujet de ce milieu de terrain plus précisément et de ce match contre Lens, hein, je reviens sur ce point-là. Est-ce que tu aurais aimé des ajustements tactique, d'organisation, voire un changement de joueur pour pouvoir changer d'organisation rapide chez Olivier Dalloglio, parce qu'on n'a pas vu le jour très vite dans cette rencontre. Enfin, je veux dire, par exemple, au bout de 20 minutes, de prendre une décision. Est-ce que c'est le genre de choses que tu attends d'un coach, ou est-ce que tu penses qu'il a eu raison de laisser du temps aux joueurs dans cette organisation-là, de se mettre un peu dans leur match en espérant que les choses s'améliorent?
Ben en fait, tu touches du doigt pour moi le problème central sur ce match. Je pense que c'est pour moi Olivier Dalloglio qui n'était pas tout à fait au niveau de la rencontre. Donc, je vais revenir très rapidement sur sa réaction d'après-match sur les sifflets. Alors moi, j'avoue, je n'ai pas cautionné les sifflets, je n'ai pas sifflé dans le Kop Nord. Je les ai très bien entendus par contre. Donc, ils étaient quand même bien présents. Néanmoins, je trouve qu'ils se trompent de cible. Qui défendent ces joueurs, c'est une chose. C'est normal et c'est ce qu'on attend de lui. Qui s'attaque au public, aux supporters, c'est la meilleure façon de faire dégénérer encore plus la situation. Et donc, pour moi, c'était une erreur de communication de sa part. Il aurait dû regretter effectivement les sifflets, mais ne pas s'attaquer aussi vertement et ouvertement au public. Il était même, j'ai écouté la conférence de presse après le match, il était à deux doigts de se barrer, hein. Donc il était vraiment hyper énervé par ça, et il n'a pas masqué sa colère, il n'a pas mâché ses mots. On peut lui reconnaître cette honnêteté-là. Néanmoins, pour le coup, pour moi, c'était une erreur de communication. Et pour le coup, il a totalement occulté, pour moi, son rôle dans cette défaite et dans cette domination lensoise vraiment qui a duré vraiment très très longtemps, notamment ben, en ne réagissant pas par rapport à ce qui se passait devant nos yeux. Enfin, nous, on était derrière le but, donc on voyait quand même clairement les cinq lensois face aux trois pauvres Stéphanois qui leur couraient après mais qui n'arrivaient jamais à prendre un ballon. Il y avait clairement un gros problème tactique sur ce match, et il a fallu attendre 70 minutes pour qu'ils réagissent, et pour moi, c'était déjà beaucoup trop tard. Clairement, après ce qu'on avait vu sur cette première mi-temps, il fallait tout de suite réorganiser quelque chose. Alors, je ne dis pas forcément changer les joueurs. Il aurait fallu au moins, je pense, en faire rentrer un de plus au milieu de terrain. C'était une certitude. Mais il fallait changer quelque chose. Et au final, on n'a quasiment rien changé. Entre la première et la deuxième mi-temps, on a juste, au bout de 70 minutes, remplacé les deux milieux qui tiraient le plus la langue et qui étaient pour moi vraiment le plus à l'ouest dans la partie, pour les remplacer par deux autres milieux du coup sur les mêmes postes, mais qui du coup ont apporté plus de fougue, plus de vitalité. Et qui ont du coup fait penser que le choix de départ était pas le bon, mais je ne suis même pas certain que si on avait fait démarrer le match à Mouton et à Bouchouari par rapport à Moffec et à Mougou, ça aurait été très différent, parce qu'au final, il y avait une telle différence au milieu de terrain entre les Lensois et les Stéphanois que de toute manière, le scénario aurait été le même. Pour moi, il y a un vrai problème là-dedans, et au point que ça a vraiment désorganisé l'équipe, parce que Ekwa s'est retrouvé quasiment à jouer cinquième défenseur central. Moi, je le voyais vraiment jouer, mais très très bas sur ce match, et c'était un vrai problème. Le réajustement tactique aurait dû se faire bien avant. On aurait dû sortir en plus un des deux ailiers, soit David Hachvili, soit Cafaro. Je penche même plutôt pour le deuxième, qui avait vraiment fait un match catastrophique, pour faire entrer un milieu de terrain et se réorganiser différemment, genre 4-4-2 ou quelque chose comme ça, qui aurait permis au moins de stabiliser un peu plus l'équipe dans son organisation pour essayer de contrer un peu les Lensois. Je ne dis pas que ça aurait été l'alpha et l'oméga, mais ça aurait au moins permis de réagir. Et ça a été beaucoup trop tardif, et on a finalement accepté de se laisser marcher dessus pendant une heure et demie quasiment, avant de changer quelque chose sur la fin de match.
Ouais, et puis il y a eu ni changement tactique, ni repositionnement dans un même système de 4-3-3, un repositionnement par exemple un peu plus bas de Cafaro et David Hachvili, leur demandant de rentrer un peu plus à l'intérieur sur les phases défensives. Enfin voilà, là, dans le cœur du jeu, on était ultra dominé. Parce que si on a dominé au cerf sur les côtés dans notre victoire, on a été ultra dominé dans le cœur du jeu, dans l'axe du terrain, alors que c'est l'endroit le plus facile à défendre a priori. Alors, par hasard, quand on voit un petit message et qui pose la question, mais la question que j'ai posée, est-ce que c'est juste un problème d'organisation ou est-ce que c'est aussi un problème de niveau des joueurs? Le surnombre, il y a quand même une partie problème d'organisation. Par hasard, tu voulais dire un mot sur le sujet avant qu'on aille voir Verivel, qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment?
Ouais, moi, genre, vous avez compris, je défends plutôt Dall'Oglio, mais c'est vrai qu'il a peut-être un petit défaut, parce que je n'ai pas le souvenir de choses qui contredisent cette théorie. Un petit défaut qui est qu'il c'est pas le roi de l'adaptation tactique. Ouais, il a une tactique dont il varie peu, quel que soit l'adversaire. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que, en tout cas, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse après le match. À un moment donné, il a décidé de faire descendre son bloc, afin de le faire baisser de 10 mètres ou de 20 mètres sur le terrain. Mais moi, l'impression quand même que j'ai, c'est sans changer de système, mais en changeant les joueurs, on a repris un peu pied quand même dans le match en seconde mi-temps. Au-delà de la tactique, il y a un truc moi, que je n'avais pas du tout anticipé avant le début de ce championnat, c'est notre faiblesse en impact physique. Le truc sur lequel d'ailleurs il insiste beaucoup, il faut regarder l'inside, son discours après la défaite dans l'inside, est vraiment un discours assez marquant, qui est long, où en gros il explique au mec qu'il va falloir être intense pendant 90 minutes, sinon on ne s'en sortira pas, que qu'ils vont y arriver, mais que c'est vraiment ça, c'est ça la voie pour y arriver. Et c'est vrai que, alors je ne sais pas si la tactique entre en jeu là-dedans, mais moi surtout, je trouve effectivement que dans les duels, on est nul, qu'on ne sait pas faire la faute intelligente à 50 mètres au milieu de terrain quand on peut se prendre un contre. Et peut-être que, plutôt que dans la tactique, il y a à un moment donné un choix de joueur peut-être à faire différemment, parce qu'un Tardieu ou un Mouton, je les sens plus un peu malins qu'un Amogou ou un Moueffec pour ça. Mais voilà, je ne suis pas sûr que la tactique soit le... Enfin, je ne suis pas convaincu que ce soit le point faible sur ce match-là ou la raison numéro un de notre défaite. On est d'accord que...
Attention, le 4-3-3, moi j'aime bien, ce n'est pas le 4-3-3 qui a un problème. C'est des ajustements en cours de rencontre. Hein. C'est plus que le choix de départ.
Hein. Ouais. Je comprends, mais bon, les ajustements au bout de 25 minutes, c'est quand même le meilleur moyen pour stigmatiser un joueur, et c'est pas non plus sa façon d'être. Il fallait pas beaucoup d'entraîneurs qui le font, mais c'est sûr que Dall'Oglio fait pas ça. On avait Puel qui était capable de faire des choses un peu surprenantes, mais sinon on n'a pas connu beaucoup d'entraîneurs qui faisaient des changements si tôt et ouais.
Moins un changement d'organisation si tu ne changes pas les hommes. En tous les cas, c'est une question qui mérite d'être posée parce qu'on a bu la tasse complètement et qu'il n'y a rien qui a été fait pour essayer d'enrayer le phénomène.
C'est vrai, mais ce n'est pas la première fois. Contre Lille, on était dominé de la même façon, sauf que Lille était moins...
Non, on ne concédait pas autant d'occasions. Ce n'est pas vrai. On ne concédait pas autant d'occasions.
Ouais, mais
on était dominé, on était dans notre camp, etc. Mais on concédait beaucoup moins d'occasions. Ils ont eu très peu d'occasions, alors que contre Lens, à chaque attaque... il fallait une parade de l'Arseneur ou un contre au dernier moment, ou le bol que le mec soit hors-jeu parce qu'il venait de se faire tacler avec 7 secondes de retard par notre capitaine.
Ce n'est pas une question de force supérieure de notre milieu de terrain ou de tactique plus intelligente contre Lille, c'est juste une question de précision et d'agressivité offensive plus forte des Lensois que des Lillois qui pensaient très fort à leur match de Ligue des Champions qui avait 3 jours plus tard, mais... dans le jeu et dans le fait de laisser une équipe arriver à nos 30 mètres, c'était la même chose. Et puis contre Nantes, on a vu aussi un peu la même chose. Enfin,
pour Lille, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. On était beaucoup plus compact contre Lille, alors que contre Lens, il y avait des trous partout. Et pour moi, c'est pas la même configuration. Et contre Lille, quand on sortait le ballon, on était dangereux, même quand on était très dominé avec 24% de possession. Faut pas oublier quand même que Lille, on peut gagner par 3 buts d'écart. Hein. Lens, t'as aucune chance de gagner par 3 buts d'écart.
Ouais, quand même, les 3 buts d'écart contre Lille, on serait sorti de là quand même en se disant qu'on a eu une réussite maximale.
Bah oui, c'est-à-dire que si tu marques les énormes occasions en contre, tu gagnes par 3 buts d'écart, que tu le veuilles ou non. Hein. Lille a eu très peu de grosses occasions. Jonathan David, il en a eu une grosse. Pour pas revenir à 1, il n'y a pas grand-chose d'autre.
Hein. Qui c'est qui frappe sur la barre? C'est lui? Il y a un Lillois qui frappe sur la barre à un moment donné. Non, c'est Zegrova.
Zegrova, ouais. Donc, ils en ont, à mon avis, ils ont deux grosses occasions, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait trois. Bon, enfin bref. Verivel, justement, on t'entend. Alors, le milieu de terrain a pas mal ramassé. On est dominé, on n'a pas d'impact, on n'est pas très bon. Il met toujours les mêmes alors qu'on est dominé. En l'occurrence, Matisse Abougou, qui, à mon avis, va devenir très vite un excellent joueur. C'est déjà un bon joueur, hein, attention. Mais Eymen Mouefek, on aime Eymen et on aime surtout le voir à 8 ans avec le maillot des Verts, puisqu'il est passé par l'école de foot. Je trouve ça absolument fabuleux. Enfin, bon, c'est un bonheur qu'il ait prolongé, pour moi, en tous les cas. Et puis, Pierre Ekwa, qui a fait des choses pas mal parfois et à d'autres moments a été décevant. Je ne sais pas trop quoi en penser encore. Et je ne sais plus qui a parlé, c'est peut-être dissident, d'autres possibilités, ou c'est par hasard, je ne sais plus, au milieu de terrain. En l'occurrence, bon, Thomas Mauconduit est blessé. Donc il reste Florian Tardieu, Louis Mouton, Louis qu'on adore, hein, qui est lui aussi formé au club. Enfin, voilà. Alors Benjamin Bouchouari, je voudrais bien qu'on en parle. Et puis, Lamine Fomba. Alors, Lamine Fomba qui a été hyper décevant toutes les dernières fois où il est rentré, la saison dernière et tout. Je ne sais pas où il en est. Alors, est-ce que là-dedans, toi, il y a des joueurs que tu aimerais voir titularisés, que ça tourne un peu plus au milieu de terrain, première question. Et deuxième question, je voudrais savoir si tu as le même sentiment que moi. Moi qui étais tout à fait partisan d'un départ de Bouchouari, pour moi, il n'avait plus aucun avenir parce que vraiment, il rentrait l'année dernière. Il n'était pas bon, je ne le sentais pas impliqué, etc. Et ben, cette saison, quand il est rentré, je l'ai trouvé intéressant et je suis en train de me dire que peut-être c'est un garçon qui va pouvoir amener sa pierre à l'édifice cette saison. Donc, deux questions. Est-ce que tu aimerais que ça bouge un peu au milieu? Et si oui, qui pourrait rentrer selon toi en tant que titulaire? Et deuxième question, est-ce que tu as eu le même sentiment sur les quelques entrées en jeu de Benjamin Bouchouari cette saison? Le même sentiment que moi?
Oui, alors avant de te répondre, je voudrais d'abord donner un point là, sur ce qui se passe sur le chat là, de YouTube. Globalement, tout le monde est d'accord, notamment Serge et Franck, là, pour dire que Abdelhamid ne doit plus jouer. Donc, bon, voilà. Et ensuite, tout le monde est d'accord aussi pour dire qu'au milieu, on se fait bien bouger, et on se fait même carrément manger. Et il y a Malik qui nous demande si la titularisation d'un Mougou, c'est seulement pour le business. Donc voilà, je pense qu'il voudrait peut-être qu'il y ait des changements, lui, à ce niveau-là. Moi, je pense personnellement qu'il va falloir apporter des changements à ce milieu de terrain, hein, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, soit des changements soit tactiques, soit de joueurs, soit peut-être éventuellement les deux, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à avoir des matchs où on se fait percer comme ça à toutes les attaques adverses sans qu'il y ait vraiment d'opposition pour les adversaires. Moi, la réflexion que je me suis fait, notamment au début du match hein, contre Lens au stade, c'est que Amogou, ça va être un très grand joueur, mais on voit contre ce type d'équipe hein, de Lens avec des très bons joueurs au milieu de terrain, on voit vraiment qu'il est encore très très jeune. Et je pense que c'est un petit peu pareil pour Mouefek, c'est-à-dire on voit qu'il n'a pas l'expérience de la Ligue 1 non plus. Donc ça fait beaucoup, je trouve, pour notre milieu de terrain. On a trois joueurs au milieu de terrain pour moi. Celui qui apporte le plus de garanties, c'est Ekwa. Et les deux autres, moins. Donc, il y a un moment donné, il va falloir changer. Donc, moi, personnellement, je tenterai de mettre un petit peu plus d'expérience et de faire rentrer plutôt à Mougou dans par exemple, en fin de match, sur les 30 dernières minutes, etc. Parce qu'il a beaucoup joué déjà depuis le début de la saison, hein, et que ben, on voit qu'il y a quand même un déficit. Donc, soit si on reste à 3, moi je pense que c'est le premier à faire un petit peu souffler et à mettre un petit peu d'expérience pour voir si on arrive à colmater un petit peu plus de brèches avec un profil comme Tardieu, par exemple, donc un peu, peut-être un peu plus défensif, ou voir Lamine Fomba s'il se remet un petit peu la tête à l'endroit. Ça, je ne sais pas, c'est à Dall'Oglio de voir ça à l'entraînement. Et pourquoi pas Benjamin Bouchouari, parce que moi, je suis un petit peu comme toi. Je trouve que sur les entrées qu'il a fait, il était intéressant, donc ben, ça peut être aussi une alternative. Alors peut-être un petit peu plus dans le même style que Amougou, donc peut-être du remplacement là, poste pour poste. Mais en tous les cas, il va falloir absolument changer quelque chose. Je serais personnellement, oui, vraiment OK pour faire souffler à Amougou et Mouefek, et pourquoi pas Tardieu Bouchouari. Pour voir si on fait un peu mieux à ce niveau-là. Il faut absolument changer.
Ouais, alors Baptiste Amougou, j'ai l'impression qu'on est un peu tous d'accord pour dire qu'il a gros gros potentiel, mais qu'il faut faire attention, pas le cramer. Alors qu'il soit titulaire parfois, régulièrement même, pourquoi pas. Peut-être que là, on a tiré un peu sur la corde et il a peut-être besoin de souffler un peu, mais. Mathis Amougou dans le groupe, je dis oui tous les jours. Je pense qu'il a sa place sur certaines actions. Enfin, il montre déjà beaucoup de maturité. Quand il a un peu plus de temps, quand le niveau est un peu moins élevé, comme contre Auxerre, là, il donne sa pleine mesure. Donc, c'est un garçon, je pense, qui a beaucoup de potentiel. T'as pas parlé de Louis Mouton, Verrivel. Alors, Louis Mouton, par hasard et moi, une fois n'est pas coutume, on
Oui,
est
c'est vrai.
d'accord. On aime beaucoup. On aime beaucoup et Louis, il a toute sa place. Alors, après, reste à voir. Moi, je suis un peu plus circonspect sur un milieu équat, Bouchouari, Tardieu. Est-ce que Benjamin Bouchouari a d'ores et déjà la capacité à faire un match complet et à être totalement investi dans les phases de récupération, concentré sur le plan de l'organisation, du replacement, tout ça. J'ai quelques doutes hein, qui viennent soulager un Imen Mouefek, par exemple, en cours de rencontre, oui, pourquoi pas, ou un autre. Hein, mais en tous les cas, il m'a redonné espoir en lui, Bouchouari. Donc, je pense que ça peut être une idée. Et puis après, on peut éventuellement passer en 4-4-2, même si je suis pas sûr qu'on ait l'effectif pour jouer en 4-4-2, ou alors faudrait associer Sissoko et Stassin, Lucas Stassin, qui pour moi, lors de sa première rencontre, avait été très très bon contre Lille, même s'il avait raté un tête-à-tête. S'il avait mis ce but-là, je pense qu'il faisait l'entrée parfaite. Par hasard, envoie des messages sur une organisation en 3-5-2 ou en 5-3-2. Ça va se terminer dans l'octogone avec Verrivel qui ne supporte pas cette organisation-là, qui était pourtant celle des Lensois et qui nous a fait tant souffrir.
C'est vrai,
Alors, on a
c'est
presque
vrai. Ils savent
terminé.
bien le faire.
On a un peu dépassé le temps habituel. On n'a toujours pas parlé d'Angers, on n'a pas parlé de Larry Tannenbaum. Alors, on n'a peut-être pas le temps de tout, mais Tannenbaum, son discours, sa venue, son discours, tout ça, il y a quand même des choses intéressantes qui ont été dites, à mon avis. Dissident, je pense que tu as lu un peu les déclarations de Larry Tannenbaum sur l'ambition qu'il fallait avoir à Saint-Étienne, sur le fait à la fois qu'il fallait prendre du temps, mais que le présent comptait aussi. Et là, on revient sur l'histoire du mercato. Hein. Ça laisse entendre que peut-être il se passera des choses si nécessaire. Et puis sur, bah, si on vient à Saint-Étienne, c'est pour gagner des titres. Alors, ça, pour le coup, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Dissident, tu as lu tout ça? Tu as eu quel sentiment sur ce Larry Tannenbaum qui, lorsqu'il a racheté le club, semblait être quelqu'un de très sérieux avec de l'expérience et s'entourant de personnes sérieuses avec de l'expérience également. Est-ce que son discours t'a laissé penser que malgré les soubresauts actuels, on pouvait nourrir des espoirs pour l'avenir.
Oui, bah déjà, moi, j'ai apprécié le fait qu'ils viennent voir le match contre Lens. Je trouve que c'était quelque chose de bien et de nécessaire. Sur le discours en lui-même, je ne suis pas tellement surpris. C'est un discours très, très nord-américain, très, très formaté, très, très optimiste et se voulant inspirant, on va dire, si on peut reprendre un peu des termes inspirés de l'anglais. Donc, c'est un très beau discours qui peut effectivement bah, nous faire espérer de beaux jours à condition de, et bah, comme je disais, de se serrer les coudes hein, pour cette année qui va être compliquée. L'avantage qu'on a sur beaucoup d'autres clubs de notre division, j'appelle ça notre division, hein, c'est le bas de la Ligue 1. L'avantage qu'on a par rapport à ces clubs, c'est qu'il semble qu'on ait un peu plus de moyens financiers. Ce qui peut nous laisser espérer qu'on rééquilibre les choses cet hiver. Après, sur le discours de Tannenbaum, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'était un discours très bien ficelé. J'aimerais bien entendre plus Gazidis. Moi, je suis un peu... Je ne sais pas si on peut en parler, ce que vous en pensez, mais je pensais qu'on l'entendrait plus que ce qu'on entend depuis qu'il est là, en termes de... plus de choses de contexte plus pratique, voilà, sur la prise en main de du club, sur ce qui est, comment il ressent les choses, comment, et pour l'instant j'entends pas trop ou pas assez, voilà, c'est un peu le bémol que je mettrais pour l'instant au début de Kilmer chez nous.
Pat, on connaît pas la réalité de ce qu'ils ont en tête ces gens là mais ce qu'a annoncé Gazidis lorsque il est arrivé la première fois au club, ce que dit Larry Tannenbaum à la suite du match contre Lens, tu vois ça comme une volonté de nous caresser dans le sens du poil, comme dirait par hasard, ou est-ce que tu penses qu'ils ont de vraies ambitions et donc nous aussi on peut rêver un petit peu?
J'espère qu'on peut rêver un petit peu quand même, hein. C'était quand même ce qu'on se disait il n'y a pas si longtemps lors des émissions précédentes, que leur arrivée marquait quand même un tournant. Les discours, en tout cas, sont posés. Il semble y avoir une trajectoire, une volonté de progresser. Alors après, ce que dit Larry Tannenbaum, bon, je pense qu'il est aussi il s'est mis dans l'ambiance du match qu'il a vécu aussi, parce qu'il a vécu un match avec une ambiance de fou qu'il a forcément beaucoup apprécié. Je pense qu'il fait un peu de politique aussi, c'est normal. Maintenant, comme toujours dans ces cas-là, c'est les actes qui parleront, quoi. Et j'avoue que pour l'instant, les discours sont beaux, les actes pour l'instant au niveau de la gestion de l'équipe première laissent franchement à désirer, en tout cas pour l'instant, mais bon, c'est que le début, donc on va attendre un peu, et notamment le mercato d'hiver au mois de janvier, pour voir si quelle est vraiment la trajectoire. Je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà dit, mais j'aime à le répéter. Il gagnerait aussi à repréciser un peu vraiment déjà l'objectif à court terme de cette saison, puisque pour moi, que ce soit Gazidis et son staff, et même Larry Tannenbaum, ils ne sont pas précis vraiment sur cette saison. Ils voient à long terme, ils voient 4-5 ans, les souhaits pour faire monter l'équipe, la faire progresser et aller chercher des titres, pourquoi pas, ça c'est sûr que ça fait rêver. Mais cette saison, pour l'instant, nous, les supporters, on voit ce qui se passe sous nos yeux et on n'a pas la capacité à se projeter aussi loin que 4-5 ans, en tout cas pas moi, en tout cas en voyant l'équipe. J'ai du mal à me dire que dans 5 ans, on sera dans le top 3, par exemple, ou qu'on gagnera une coupe, je sais pas, n'importe quoi. Ça me paraît inconcevable vu l'équipe qu'on a actuellement pour l'instant, et j'aimerais aussi être rassuré un peu sur ce qu'ils pensent de ce début de saison, quel est l'objectif, est-ce que c'est vraiment de finir 15e à l'arrache avec 30 points en se disant bon, ça passe à la dernière journée avec de la réussite, ou alors est-ce qu'on fait en sorte quand même de renforcer l'équipe sur ses manques qu'on a évoqué précédemment pour espérer faire une deuxième partie de saison plus sereine qui permettrait d'une part de bien préparer la saison suivante, mais aussi de pouvoir valoriser les fameux joueurs qui ont été recrutés pour justement faire progresser l'équipe, mais aussi faire un peu de business. Je pense que ça serait bon pour tout le monde que tout cela soit clarifié assez vite. Donc pour l'instant, je resterai toujours un peu mitigé face à ces beaux discours qui méritent des actes.
Oui, et moi j'ai été frappé par le fait que Larry Tenenbaum a dit qu'il avait trouvé de très grands professionnels, très compétents à tous les niveaux du club, en l'occurrence Rustem Perrin, Soukas et Olivier Dalloglio. Et dans la mesure où les Nord-Américains ne font pas du tout dans l'affectif dès qu'il s'agit de réussir leurs entreprises, je pense que ça ne veut strictement rien dire sur l'avenir des quatre concernés. Alors, on a largement dépassé. On dit un petit mot sur Angers. Par hasard, ce match face à une équipe qui joue dans la même division que nous, pour reprendre les termes de dissident. Avec, j'aurais aimé qu'on en parle plus, mais on n'a pas le temps, avec l'absence de Benold, qui, à mon avis, est la grosse satisfaction sur le terrain depuis le début de la saison. Il y a de l'enjeu. Angers va mieux par rapport à son début de saison. Ils sont plus solides. Ils ont fait nul au Vélodrome, il faut le rappeler quand même. Ils ont fait nul contre Toulouse également, là, lors de la dernière journée, si mes souvenirs sont bons. Il y a un enjeu assez fort sur cette rencontre. On ne l'a pas préparé de la meilleure des manières. Comment tu voudrais qu'elle soit abordée, cette rencontre, avec des changements au milieu, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec d'autres changements peut-être, un changement d'organisation? Comment tu sens les choses et comment tu espères les choses?
Moi, je rejoins la volonté de changer au milieu, parce que je trouve que, autant en début de saison, les entrants n'ont pas forcément toujours été convaincants au milieu, autant sur les 2-3 derniers matchs, je trouve que notamment Mouton et Bouchouari ont montré des choses. Donc, il est temps de leur donner un peu plus de temps de jeu pour voir si ça peut changer un peu l'impact que ce milieu de terrain a. Alors, sur Bouchouari, j'y crois pas trop à l'impact, mais peut-être en termes de maîtrise technique et de construction offensive, ça pourrait nous apporter un plus que Mouefek nous apporte plus vraiment pour l'instant depuis le début de saison. Donc, pourquoi pas. En fait, pour moi, il y a deux enjeux sur ce match. Il y a le fait de ne surtout pas perdre, parce que c'est un concurrent direct. Idéalement gagné, mais dans ce genre de situation, je pense que le plus important face à un concurrent direct qui est derrière nous et qui nous reçoit, bah, c'est de ne pas perdre. Si ça avait été chez nous, c'était de gagner, mais là, c'est de ne pas perdre. J'ai un deuxième enjeu, on n'en a pas du tout parlé, mais que j'ai dans un coin de ma tête et qui prend de la place de plus en plus envahissante, c'est le 10 novembre. Et on a, je crois, 5 joueurs qui ont 2 cartons jaunes et qui serait suspendu le 10 novembre. Je ne prononce pas l'équipe maudite qu'on affrontera, mais vous m'avez compris. Donc j'aimerais bien qu'en particulier Nadé, qui est concerné, ne se prenne pas de carton. Je suis à deux doigts de militer pour une charnière centrale Batu Bensik et Abdelhamid à Angers pour éviter ça. Je plaisante. Mais voilà, donc c'est ça pour moi les deux enjeux, ne pas perdre et ne pas perdre de joueurs pour le match qui aura lieu 15 jours plus tard.
Tu plaisantes, mais c'est une vraie question. Parce que si Mika Nadé prend un jaune et qu'on se retrouve avec la charnière Batu Bensik et Abdelhamid là où on aimerait ne pas être, ça risque d'être un poil compliqué. Bon, on arrive au terme de l'émission. Alors, Pat Verivel, dissident, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur Angers avant de conclure? Ou est-ce qu'on en reste là? Moi, je voudrais dire, pendant que vous réfléchissez et que vous répondez, ouais, je voudrais non, dire quand même un truc.
Je voulais juste te dire comme par hasard. Quoi,
si non, mais c'est moi qui suis en train de dire. C'est moi qui suis en train de dire. Donc, tu ne peux pas dire en même temps que moi. Je voudrais dire, le temps que vous réfléchissiez, quand même, que l'entraîneur d'Angers, Alexandre Dujeu, est un ancien joueur du FC Floimont. Alexandre Dujeu est un Ardennais. Alexandre Dujeu est un vrai Ardennais de la pointe des Ardennes. Et oui. Il a commencé au FC Floimont Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire de le voir là. Et je serai au stade. Et ça sera un plaisir de voir Alex sur le banc angevin, même si, évidemment, vous savez que mon cœur ne balance pas entre les deux. Et par hasard, je te confirme que je l'avais déjà dit, et je le redis, et je le redirai encore. Alexandre Dujeu a joué au FC Floimont. Voilà, il est de Fromelaine. Allez, Flo. Verivel, tu voulais dire quelque chose?
Ben non, mais je l'ai déjà dit. Moi, c'est comme par hasard, il faut surtout ne pas perdre. Et envoyer un bon message là pour parce que la défaite là juste avant le derby, bon franchement honnêtement le derby, je sais pas comment vous le sentez, mais déjà d'habitude
on n'en parle pas, on n'en parle pas, je veux même pas savoir comment je le sens, je suis déjà à la limite de l'anorexie, non c'est pas possible.
Donc, ça serait bien quand même hein, de prendre des points. Un, c'est bien. Trois, c'est mieux. Mais déjà, un, c'est très bien là, contre Angers. Il ne faut absolument pas perdre ce match. Donc, faisons tout pour ne pas le perdre. J'espère que Olivier Dalloglio va tout faire pour ne pas le perdre.
Olivier Dalloglio et les joueurs, parce que Olivier Dalloglio ne court plus sur le terrain depuis un certain temps. Et donc, les joueurs doivent se prendre en main, doivent se responsabiliser et évidemment donner le meilleur d'eux-mêmes, être plus performant et peut-être aussi un peu plus intelligent à certains moments. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir écoutés, que ce soit en direct ou en replay. Il y a de grosses échéances qu'on arrive. Il y en a une qui a été évoquée à la toute fin que j'ai fait exprès de ne pas mettre au programme de l'émission parce que la situation est déjà assez stressante comme ça, j'avais pas envie d'en rajouter et on espère le meilleur pour le mois qui vient. Merci à tous, bonne fin de soirée, à très bientôt et allez les Verts.